Vous écoutez
RMC.
7h58, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. La pluie presque pour tout le monde, Géraldine.
Ah oui, ça va être difficile d'y échapper. Et en plus, on parle de bonne pluie, ce qui ne va pas arranger les affaires en Bretagne, où il y a toujours cette vigilance orange pour les crues, de l'Odé, de la Laïta, du Blavet. Donc vraiment, vers la Cantique, ça va s'agir d'averses. Donc ça ne va pas être tout le temps, il y aura quelques petits moments d'accalmie. Mais les averses sont quand même assez marquées, puisqu'ils vont gagner toute la moitié ouest dans le courant de la journée, avec pas mal de vent. Dans le même temps, on a des remontées de Méditerranée, donc avec des pluies soutenues près de la Méditerranée, jusqu'au sud du massif central, avec de la neige à basse altitude, hein, dès 600 mètres sur le massif central. Et puis ces pluies qui vont se décaler légèrement vers l'est en journée, donc qui vont plutôt toucher autour de la vallée du Rhône. Dans le nord-est, ce sera un peu plus calme quand même, mais ça va rester très gris. Les températures, c'est toujours le même contraste. Dans le nord-est, il fait toujours froid. On a dégelé ce matin. Ailleurs, c'est de la douceur. Il fera 3 degrés à Strasbourg cet après-midi, 5 à Grenoble, 9 à Lille, à Lyon, 10 à Brest, 11 à Clermont-Ferrand ou Nice, 12 à Paris, à Bordeaux, Marseille, La Rochelle, Nantes, 13 à Biarritz, c'est jusqu'à 14 degrés pour Ajaccio. La suite du programme, on n'a pas fini Oui, mais ça reste un problème, effectivement, parce qu'on va encore parler de la pluie. Demain, ça va être une journée particulièrement agitée. Et puis pour le week-end, les températures vont bien baisser. On va retrouver pas mal de gelées et toujours beaucoup de pluie près de la Méditerranée.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Il est 7h59, quel plaisir de vous accompagner tous les jours sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Tout de suite le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'effroi à Nice où une femme a été abattue au volant de sa voiture hier soir sous les yeux de son enfant par des tireurs à scooter, toujours recherché ce matin. RMC en direct de Nice dans un instant. Vous allez entendre le témoignage RMC du père de la première victime d'un baby-sitter condamné pour avoir violé un enfant il y a quelques années et qui aurait récidivé à sa sortie de prison. Et puis Conseil européen à Bruxelles. Aujourd'hui, il sera évidemment question des annonces hier, des annonces encore floues, hein, de Donald Trump sur le Groenland, futur accord et finalement pas de taxes.
C'est la sidération ce matin à Nice.
Où une jeune femme a été abattue par balle hier soir au volant de sa voiture et sous les yeux de son bébé de 6 mois sur une avenue dans l'ouest de la ville par des tireurs qui circulaient à scooter et qui ont pris la fuite. Pierre Bazin, vous êtes en direct de Nice ce matin pour RMC. Les suspects sont toujours recherchés.
Oui, ce matin, une source proche du dossier nous confirme qu'aucune interpellation n'a eu lieu pour l'instant. Deux hommes sont toujours recherchés. Pourtant, jusque tard hier soir, des opérations de police menées notamment avec l'appui du RAID ont eu lieu dans la ville pour retrouver le tireur ainsi que le conducteur du scooter, les deux hommes qui ont donc ouvert le feu sur une femme de 25 ans. Il est environ 18h hier lorsqu'un deux roues se porte à la hauteur du véhicule qui roule... de la mère de famille. Le passager du scooter ouvre le feu sur la conductrice. Elle est mortellement blessée. Dans cette voiture se trouve également un bébé de 6 mois qui s'en sort indemne selon les autorités. Les deux tireurs, eux, prennent la fuite. Plus tard, le scooter qui pourrait avoir été utilisé par les deux hommes a été retrouvé sans plaque d'immatriculation. Les enquêteurs travaillent à ce stade sur plusieurs hypothèses. Si le mode opératoire ressemble à un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants, la piste du drame intrafamilial n'est pas écartée pour l'instant par les enquêteurs. En revanche, les policiers pensent à cette heure que l'équipe qui a ouvert le feu a certainement agi à la demande d'un commanditaire.
Pierre Bazin, en direct de Nice ce matin pour RMC. Ce témoignage RMC ce matin dans l'enquête sur ce baby-sitter de 36 ans placé en détention provisoire il y a une dizaine de jours à Lille parce que soupçonné de viol sur un enfant en bas âge qu'il gardait. Cet homme avait déjà été condamné en 2020 pour avoir violé un enfant de 2 ans à Nice. 6 ans après, le père de cette victime s'exprime pour la première fois ce matin sur RMC. Il ne comprend pas comment, après 5 ans de détention et une interdiction d'exercer une profession avec des mineurs, comment cet homme a pu être au contact d'une trentaine de familles. Témoignage RMC, Pierre Bazin, Martin Juré.
Oui, il y a quelques jours, lorsqu'Alexandre reçoit un appel de son avocate, elle lui explique que le babysitter qui a violé son fils en 2019 vient d'être placé en détention pour des faits similaires. Le père de famille s'effondre.
Quand on apprend cette nouvelle-là, c'est un coup de tonnerre. C'est un coup de massue sur la tête et une immense colère. Il est censé être sous suivi psychologique, suivi judiciaire, il a été soigné, médicamenté. Il se passe rien au final, on parle de 30 familles, potentiellement c'est énorme.
Ces faits ravivent un traumatisme lorsque ce soir de 2019, l'enfant d'un peu moins de 3 ans fait une confidence à ses parents avec ces mots de petit garçon.
Il nous a dit que ce babysitter qui s'appelle Camille avait mis son zizi dans sa bouche. stupeur, tremblement. Avec l'enquête, on découvre le récit aussi de ce qui s'est passé plus précisément. Ça fait froid dans le dos.
Aujourd'hui, il ne comprend pas comment le babysitter de 36 ans a pu exercer au contact de mineurs malgré sa condamnation.
C'est la sanction qui n'est pas adaptée et le suivi qui n'est pas adapté. Enfin, c'est délirant de savoir qu'on lâche des malades sexuels dans notre société. Pourquoi il n'y a pas une liste des délinquants sexuels sur mineurs qui soit accessible au moins à certains types d'autorités ou d'organismes? On est tous concernés.
Le père de famille veut interpeller les pouvoirs publics, lui qui se dit favorable à la castration chimique des délinquants sexuels.
Il est 8h03 sur RMC. Après Davos, les Européens vont se réunir à Bruxelles aujourd'hui.
Oui, Conseil européen. Au lendemain donc des annonces faites hier soir par Donald Trump, on se demandait ce qu'il allait dire. Il avait l'air satisfait d'annoncer un futur accord sur le Groenland, mais sans toucher à la souveraineté de l'île, a quand même précisé dans la soirée le chef de l'OTAN, Sébastien Krebs, chef du service politique RMC en direct ce matin. Il a aussi renoncé à ces menaces de droits de douane, nouvelles taxes qui étaient censées viser les Européens, ce qui est donc une première victoire.
Oui, les Européens sont passés de la crispation face au discours fleuve de Donald Trump à Davos hier après-midi au soulagement dans la soirée. Le président américain fait redescendre d'un coup la pression d'un cran. A-t-il cédé aux menaces de mesures de rétorsion européenne? Il y a un début de recul, se réjouit ce matin le ministre français de l'économie Roland Lescure, qui dit rester toutefois vigilant. C'est bien la preuve qu'il faut se montrer ferme. La moindre faiblesse se paie, juge un ancien dirigeant européen. On voit bien que la prudence est de mise. Le Danemark, d'ailleurs, ce matin rappelle qu'il entend poursuivre un dialogue constructif, mais dans le respect de son intégrité territoriale. Et c'est tout l'enjeu parce que le contenu de l'accord n'a pas été communiqué. Et le patron de l'OTAN précise que le sujet de la souveraineté du Groenland n'a pas été évoqué. Il y a encore beaucoup de travail, prévient-il. À Berlin, le ministre allemand des Finances met en garde contre un optimisme prématuré. Prudence face aux revirements fréquents de Donald Trump. Il faut attendre un peu, dit-il, ne pas se faire trop d'illusions. Des Européens qui ont donc rendez-vous à Bruxelles ce soir pour un Conseil européen qui avait initialement été convoqué en urgence pour envisager une riposte aux menaces de Trump.
Et les Européens qui restent divisés sur la question du Mercosur. Vous savez que le Parlement européen a voté hier pour la suspension de la procédure de ratification de l'accord, le temps que la justice tranche. L'Allemagne demande quand même son application provisoire. La France, elle appelle au respect du vote. En France, il y a le département de Côte d'Or qui a l'intention d'interdire les produits en provenance d'Amérique du Sud dans les cantines de ses collèges.
Saura-t-on un jour ce qui s'est passé vraiment à Crans-Montana en Suisse la nuit du Nouvel An?
Vous vous souvenez du drame qui a fait 40 morts? Eh bien, les deux gérants français du bar incendie ont été auditionnés une deuxième fois par la justice suisse là durant cette semaine. Jacques Moretti, c'était mardi pendant 7 heures. Jessica Moretti, c'était hier pendant 11 heures. Une vingtaine d'heures donc d'audition en tout, Romain Houck pour RMC, sur les faits la nuit du drame.
Oui, une très longue audition dans laquelle Jessica Moretti est apparue très émue. Elle a souvent pleuré en évoquant les faits, au point que certains avocats de victimes, eh bien, regrette de ne pas l'avoir assez entendu sur le fond de l'affaire. D'après nos confrères de BFM TV, cette audition portait notamment sur les bougies scintillantes. Elle explique avoir, avec son mari, changé de modèle pour des bougies plus petites qui durent moins longtemps pour des raisons de sécurité. Elle a également réaffirmé que les barman et serveurs n'étaient pas formés à la gestion d'un incendie, mais elle précise que les deux agents de sécurité, eux, l'étaient. Enfin, elle assure ne pas être partie avec la caisse contenant les recettes de la soirée, contrairement à ce qu'ont affirmé des médias italiens. Reste la question de la mousse isolante qui a pris feu le soir du drame. La veille, Jacques Moretti, lors de son audition, a indiqué que le vendeur lui avait assuré qu'il s'agissait de matériaux adaptés. Jacques Moretti qui pourrait bientôt sortir de prison. Les quelques 215 000 euros de sa caution ont été rassemblés. Le tribunal des mesures de contrainte devra statuer prochainement. Son épouse, Jessica Moretti, reste libre mais soumise à des mesures pour l'empêcher de quitter le territoire suisse.
Cette info de dernière minute ce matin, on parlait, souvenez-vous, du redémarrage de la plus grande centrale nucléaire du monde au Japon, après 15 ans de fermeture, à l'arrêt depuis la catastrophe en fait de Fukushima. Eh bien, on apprend ce matin que le redémarrage est suspendu. Il y a une alarme du système de surveillance qui s'est déclenchée. Tout suspendu, donc, dit ce matin l'opérateur. C'est rare, tiens, une grève dans le secteur bancaire. Les 78 000 salariés du Crédit Agricole sont appelés à débrayer aujourd'hui pour dénoncer, disent-ils, des augmentations de salaire insuffisantes selon les syndicats et contre les potentiels effets d'un plan de mutualisation de certains métiers. Tiens, c'est la première fois de la saison que les trois clubs français perdent la même semaine en Ligue des Champions. Après Paris et Monaco, hier c'est Marseille qui a été battu sèchement 3-0 par Liverpool. Ça se passait au Vélodrome et l'entraîneur marseillais Roberto De Zerbi n'était pas tendre du tout avec ses joueurs à la fin du match, notamment le gardien Geronimo Rulli et le défenseur, écoutez, Benjamin Pavard.
On a mal joué, on n'a pas compris où se situait le jeu, il était beaucoup sur Pavard et on ne l'a pas compris. Et s'il l'avait compris, lui-même, on n'aurait pas perdu de ballon bête. L'attitude était là, mais quand tu joues contre Liverpool, il faut comprendre le foot, la volonté ne suffit pas.
Place à la Ligue Europa ce soir, Lyon en tête chez les Young Boys, les Suisses de Berne, sera à 18h45. Il y aura aussi Nice chez les Irlandais de Go Ahead et Lille contre les Espagnols du Celta Vigo, ça ce sera à 21h. Et puis on rentre dans le vif du sujet, tiens, l'Euro de handball, les Bleus joueront contre le Danemark ce soir 20h30, gros match pour le début du tour principal.
C'était le journal de Quentin Vinet, il est 8h08 et c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Avec Emmanuel Lechypre. Emmanuel, un nouveau dispositif veut redonner aux Français l'envie d'investir dans la pierre, dans l'immobilier.
Ah ça, c'est sûr que les Français, ils n'ont plus beaucoup envie d'acheter un appartement ou une maison pour louer ensuite. Ah, là, on ne parle pas de...
On parle d'investissement locatif. Là.
Voilà, exactement. Moins de 10 000 logements neufs ont été vendus aux investisseurs particuliers l'an dernier. On était à 60 000 en moyenne par an au cours des années précédentes. Alors les explications sont nombreuses, hein. Le prix du mètre carré qui monte, les taux d'intérêt qui augmentent, les réglementations trop contraignantes, on pense aux réglementations énergétiques, ou bien les réglementations qui changent tout le temps, les coûts qui s'envolent, c'est la taxe foncière, c'est l'encadrement des loyers, et puis la loi française qui, il faut bien le dire, surprotège les locataires, voire les squatteurs. Et puis surtout la disparition du dispositif Pinel. Il fallait donc trouver une nouvelle incitation à investir dans la pierre pour les Français. Ce sera le statut du bailleur privé qui figurera dans le budget 2026. Mais la bonne nouvelle, c'est que le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, a ajouté un petit peu son grain de sel pour muscler ce dispositif.
Alors ça va consister en quoi ce dispositif ? Est-ce que c'est vraiment incitatif ?
Oui, plus que la dernière version par exemple qu'avaient retenu les sénateurs, et ça c'est la bonne surprise pour les professionnels de l'immobilier. Alors ça concerne évidemment le petit propriétaire qui veut louer sur la longue durée dans le parc privé classique, hein, il ne s'agit pas de transformer ses logements en Airbnb. Donc il sera possible de déduire de ses impôts l'ensemble des charges liées au logement, la taxe foncière, les intérêts d'emprunt ou bien les frais de gestion, et c'est ça la nouveauté. Il sera aussi possible de déduire chaque année un pourcentage du prix d'achat de l'appartement ou de la maison. Ce sera entre 3,5% et 5,5% du prix du bien selon le niveau de loyer qui sera pratiqué si vous achetez dans le neuf, ou bien 3 à 4% plutôt pour un achat dans l'ancien. Alors évidemment, ce sera plafonné, mais c'est intéressant. Et à la différence de la loi Pinel, ce nouveau dispositif locatif dit Jeanbrun, puisque maintenant tous les dispositifs
portent le nom du ministre du logement,
ça ne se limite pas au logement neuf, ça concernera aussi l'ancien, ça concerne aussi, nouveauté, toute la France, et plus seulement, vous savez, ce qu'on appelle les territoires tendus. Donc c'est un dispositif plutôt avantageux.
C'est pas non plus open bar.
Non, en échange de ces avantages fiscaux, les bailleurs devront respecter plusieurs engagements en matière de travaux de rénovation, par exemple. Ils devront aussi respecter des plafonds de loyer raisonnables. En matière de rendement, parce que c'est ça qui compte, hein, quand vous êtes un investisseur immobilier, on arrive sur des simulations qui donnent à peu près du 3,4% par an. On serait sur un niveau à peu près similaire à ce que rapportait la dernière version du Pinel.
Merci Emmanuel, il est 8h11 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
À suivre dans Apolline Matin. Dans un instant, il y aura Arnaud Demange qui va venir nous rejoindre. Notez qu'à 8h30, l'invité du face-à-face, ce sera le patron de la BPI, la Banque Publique d'Investissement, Nicolas Dufour. Quel avenir pour les entreprises françaises dans ce chaos mondial entre la Chine d'un côté et les États-Unis d'autre. Et puis juste après, il y aura Nicolas Canteloup et ses imitations comme chaque matin. Face à Canteloup, c'est à 8h50 sur RMC. Pour l'heure, il est 8h11. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h14, vous êtes bien sûr à AMC avec Arnaud Demange.
Bonjour, Arnaud. Bonjour les amis. Je vais vous raconter un truc de fou, il m'est arrivé un truc dingue hier. Vous voyez qui c'est Sydney Sweeney ? L'actrice américaine qui fait la femme de ménage là en ce moment, triomphe.
Ah oui.
Elle m'a envoyé un message Insta marqué « Hello, j'adore tes vidéos, tu es trop sexy ». Elle adore ce que je fais en fait. Elle est bilingue, elle est en promo à Paris. Elle m'a proposé un spa au Hammam du Ritz et là j'ai dit « Désolé Sydney, je dois regarder le discours de Donald Trump pour débriefer avec l'équipe de Apolline Matin. Je suis professionnel, voilà, Apolline. Vous voyez le professionnalisme dont je fais preuve.
Vous avez voilà, bien fait. Elle vous a demandé des sous aussi, parce qu'elle est hospitalisée, je crois. Et c'est une copine de Brad Pitt.
C'est une copine de Brad Pitt. Ouais. Alors je pense qu'elle a été déçue et qu'elle est allée boire un coup avec Laurent Gérard pour se consoler. Mais bon, le boulot, c'est le boulot. J'ai bossé pour vous. Je suis allé regarder tout le discours de Donald Trump, 72 minutes.
Oh là là.
C'est un peu comme voir un vieux tonton sénile. Hein, morceau choisi du discours, il y a eu « Mes résultats sont meilleurs que ceux d'Abraham Lincoln. Les Islandais m'appellent Daddy. Oh yeah, Daddy, m'appelle Papa. Les éoliennes chinoises sont... Oh, j'ai fait pipi. Mes chaussures, mon pantalon. Alors, j'ai bien aimé aussi, sans l'Amérique, vous parlieriez tous allemand en Suisse, où ils parlent tous allemand. Déjà. Là, c'était Michel Sardou hier.
Si les ricains n'étaient pas là,
on n'a pas le tempo.
C'est du tempo à l'ancienne.
Bref, on attendait son tube du moment, le Groenland. Le public était en délire. Groenland, Groenland. Et finalement, il n'envahira pas militairement le territoire. Il peut encore changer d'avis cet après-midi ou demain ou après-demain. Enfin, ceci dit, il le veut toujours. Il a déclaré, si on ne le fait pas, la Russie va le faire et on ne peut pas avoir la Russie comme voisin. Sauf que... Prenez un planisphère, la Russie et les États-Unis sont voisins. Ça touche quoi l'Alaska, à votre avis? Puis ça, si t'as pas envie de contrarier la Russie, il y a un moyen très simple qui s'appelle l'Ukraine. Alors, il a aussi dit que les États-Unis n'auraient jamais dû redonner le Groenland après la Deuxième Guerre mondiale, que, comme ils l'avaient protégé, c'était à eux. Petit conseil, ne laissez pas Donald Trump faire du babysitting, Apolline, je vous le dis, parce que sinon il va faire « Non, cet enfant est à moi, il le rendra jamais. Je l'ai acheté chez Epstein, il m'appartient.
Oh. » Ça... Oh. Bon, après un an de Trump, le ministère des Affaires étrangères français a créé un compte Twitter, French Response, qui publie des réponses aux provocations des Trumpistes.
Oui, puis alors c'est musclé, hein, ah c'est bon cinglant, hein, ça picote. C'est aussi pour corriger les fake news, mais... En fait, on est passé il y a un an de « Nous rappelons à notre allié et ami américain notre longue histoire commune ». Un an plus tard, c'est « Va te faire cuire le cul, vieux débris orange ». Ça a changé.
Ah ouais.
Avant, au Quai d'Orsay, ils engageaient la fine fleur de la diplomatie et de l'élégance française. Maintenant, comme ministre, on a limite Redouane Bougueraba. Vous savez, l'humoriste marseillais, là, ils vont l'envoyer au G7 qui va faire « Oh, Trump, tu es trop orange, frère. Quoi ta couleur ?» Je t'assure, le boss, il n'y a rien qui va. Hein. Tu ressembles au Tupperware à Madarone quand elle a fait les pâtes bolognaises. Oh, Giorgia Meloni. Oh, le sang. Dis-moi, tu es bien roulé, ma sœur. Hein. Ton père, il n'est pas dealer de weed. T'es roulé comme un bon joint. Pour une facho, tu es bonne. Hein.
Oh.
Raciste, va. Chez. C'est vraiment un changement de style. Total, absolu.
Les représentants de Chine et du BHV ont été auditionnés au Sénat hier.
Oui, dans le cadre d'une commission d'enquête sur la fast fashion. C'est marrant parce que fashion et Sénat, c'est pas des mots qui vont ensemble,
non,
normalement, puis là, si. Bah, ceci dit, si, j'imagine que les sénateurs sont à la pointe de la mode sur toutes les collections Damar, Scholl, Mephisto, Tenamen. Mais sinon. Alors, le Sénat a demandé à Chine des garanties de qualité et de traçabilité. Hein. On ne peut pas vendre des produits faits par des enfants chinois. Alors Chine a proposé de vendre des produits faits par des enfants français. Donc il y a un effort de fait, mais c'est pas encore ça. Et le président du BHV, Frédéric Merlin, était interrogé aussi sur l'implantation de Chine au BHV. C'est pas un énorme succès. Il y a même des villes dont les magasins ont refusé d'être associés à l'image de Chine, comme Limoges, Dijon ou Grenoble. Ce qui tombait bien parce que Chine voulait pas non plus être associé à l'image de Grenoble ou de Limoges. Bref, Frédéric Merlin a dû s'expliquer.
Vous avez parlé Dijon, hein, je remarque.
Oui, mais
vous avez dit,
c'est beau Dijon.
Oui.
Bref, Frédéric Merlin a dû s'expliquer sur toutes les polémiques.
Salut les papis tout mous. C'est un honneur d'être ici face au sénile, au Chéna.
Non, non. Alors, les vieux, je vais vous faire le topo, mais avant, je voulais vous dire, cette poupée sexuelle que vous avez apportée pour me demander des explications, celle-là, elle vient pas de chez moi. Elle est super moche et elle est beaucoup trop gonflée.
Non, monsieur Merlin, c'est Gérard Larcher, le président du Sénat. C'est pas une poupée sexuelle.
Ah oui, je me disais aussi, jamais j'aurais vendu un truc comme ça. On a une éthique, bordel. Et maintenant, je vous propose la poupée sexuelle en forme de labrador à fabriquer vous-même. Une peluche de chien, une perceuse, et le tour est joué. Je vous montre. Mais interdisez-lui d'ouvrir un commerce à ce type. C'est fou quand même.
C'est pas
ça se vend. Allez, à
bon,
demain.
À demain.
À demain.
À demain ou d'ici là, à tout moment en podcast, bien sûr. Vous êtes toujours en tournée?
Toujours.
En France, avec un nouveau spectacle. Montpellier, Caen, hier, Versailles, Poitiers, Épinal. Je remarque qu'il n'y a pas Limoges, Dijon et Grenoble.
Ouais. Dijon, il y a. Limoges et Grenoble.
Dijon, c'est pour ça qu'il l'avait épargné.
Ouais, épargné.
Et bonjour aux habitants de Grenoble
et Limoges.
Il est 8h20, vous êtes bien sur RMC. On vous donne la parole. Jérémy qui nous appelle au 3216, qui nous appelle le Lisère. Bonjour Jérémy.
Bonjour, il faut qu'il vienne à Grenoble, ça serait sympa.
Ah voilà, ah bah.
J'ai joué trois fois à Grenoble.
Eh bien, il est déjà en chemin, je vous le dis. Jérémy, vous réagissiez à la voix de gauche ce matin, Cécile Duflot, qui était vent debout contre la proposition d'une légitime défense, a priori, des policiers et des gendarmes.
Et a priori, je me sentirais menacé, parce qu'elle a dit que la population se sentira menacée. Bah, je ne sais pas de quelle population on parle, parce que moi, je ne me sens pas du tout menacé. Et au contraire, il faut instaurer la peur du gendarme. On n'arrête pas de le dire. Donc, à un moment donné, non, je ne me sens pas menacé.
Vous voulez restaurer la peur du gendarme, justement. Vous trouvez qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque?
Ah oui. Bah, bien sûr, regardez, règlement de compte. On a l'affaire de la pauvre dame qui s'est fait assassiner
hier.
Dans sa voiture à Nice.
Hier, dans sa voiture à Nice, avec donc, l'enfant derrière dans la banquette arrière.
Donc à un moment donné, on continue comme ça ou on fait quoi? À un moment donné, faut l'instaurer, la peur du gendarme.
Donc vous préférez qu'on ait peur du gendarme plutôt que ce soit le gendarme qui ait peur, quoi?
Voilà, c'est ça. Et puis en plus, il faut aussi qu'il y ait la justice qui suive derrière. Mais bon, il y a tout un système à revoir en France qui ne va plus, quoi.
Vous le ressentez au quotidien, Jérémy?
Oui. Les comportements, moi qui roule souvent
sur la route. Vous êtes sur la route, hein, vous êtes chauffeur?
Oui, c'est ça. Les comportements, les mauvais comportements sur la route, et puis on voit tout de suite des gros cylindrés qui vous fait des têtes à queue, qui roulent n'importe comment sur l'autoroute. Maintenant, vous n'osez plus rien dire parce que vous savez que ça peut partir, partir à tout moment, quoi.
Merci Jérémy d'avoir réagi. C'est important justement d'entendre toutes les voix, la voix de gauche, la voix de droite. Ça, c'est tous les jours. Louis Sarkozy d'un côté, Cécile Duflot de l'autre. Vous aurez reconnu lequel est de droite et lequel est de gauche.
C'est facile à s'en souvenir.
Et puis évidemment vos réactions. À vous au 32-16. Il est 8h22, vous êtes bien sur RMC. Dans un instant, je serai aussi sur BFM TV avec mon invité pour le face-à-face, Nicolas Dufour, qui est le patron de la BPI. Quel avenir pour les entreprises françaises? Prise en tenaille, franchement, entre l'invasion chinoise, lui il parle d'un tsunami, et les folies de Donald Trump de l'autre côté. Les réponses donc de Nicolas Dufour sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Nicolas Dufourcq.
Bonjour.
Merci d'être mon invité ce matin et de répondre à mes questions. Vous êtes le directeur général de BPI France, la banque publique d'investissement. Vous êtes au plus près des entreprises françaises. Vous avez également écrit ce livre, La dette sociale de la France, qui est paru chez Odile Jacob. Vous parlez d'un tsunami chinois. Vous dites même qu'il va falloir remonter des barrières douanières en Europe. Et dans le même temps, on a entendu évidemment les menaces hiératiques de Donald Trump de l'autre. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'économie française et européenne?
Disons que je ne suis pas encore. On a fait 1% de croissance cette année, on fera 1% de croissance l'année prochaine. À la BPI, on est très satisfait du nombre de projets qu'on reçoit. On n'en a jamais eu autant en réalité. Donc l'économie française, elle est encore tout à fait productive, féconde. Les autres économies européennes, à part l'allemande, qui remontent quand même un peu, ça va aussi, grosso modo. Mais il faut effectivement qu'on prenne conscience de la gravité des attaques dont on fait l'objet. Et donc, les rythmes de décision de la Commission européenne sur la remontée des barrières douanières ou sur l'instruction des dossiers de dumping contre les Chinois sont beaucoup trop lents. Beaucoup, beaucoup trop lents. Il y a trop d'entreprises, de PME qui souffrent inutilement. Donc moi, je plaide pour que on recrute massivement à Bruxelles ceux qui vont instruire ces dossiers de dumping, qu'on écoute les plaintes et qu'on les traite. Et si on n'en est pas capable, à ce moment-là, on remonte carrément l'ensemble des barrières douanières.
C'est-à-dire qu'il faut agir. En fait, ce que vous dites, c'est qu'on n'agit pas.
On agit beaucoup, beaucoup trop lentement avec un principe de consensus qui est interminable et qui n'est pas à la portée d'un monde où tout s'est accéléré comme on l'a vu à Davos.
Alors, regardons justement ce qui se joue et ce qui va se jouer encore aujourd'hui, puisque Davos, Donald Trump y est toujours au moment où on se parle. Il a eu des propos très paradoxaux. D'un côté, il dit « nous voulons des alliés forts, pas affaiblis, nous voulons que l'Europe soit forte ». Et de l'autre côté, il parle de la croissance économique, du commerce, de l'immigration qui devraient être des préoccupations centrales. Et puis il dit ensuite qu'il va augmenter de 200% les droits de douane. Et puis le lendemain, il dit ah bah finalement c'est bon, on est ok, donc il y aura pas de droits de douane. Comment on fait face à ça? Comment on deal? Comment on négocie? Comment on prévoit?
Bah, d'abord, on garde son calme parce qu'il est ce qu'il est, hein, et donc il a une technique de discussion, de négociation qui est presque infantile. C'est de l'ordre du cri primal. Donc on le sait maintenant, hein, et ça s'aggrave avec l'âge. La vérité, c'est que ils ont besoin de l'Europe et que le régime est lui-même pas si puissant que ça aux États-Unis, puisqu'ils ont reçu des messages extraordinairement forts de la majorité républicaine de ne pas attaquer le Groenland, sinon c'était l'impeachment immédiat. Et le peuple américain à 85% a fait savoir qu'il n'était pas d'accord avec cette folie.
Mais est-ce que ça veut dire que nous on le prend trop au sérieux?
Je pense qu'il faut pas, qu'on donne l'impression d'être des enfants qui sont effrayés par le père. C'est lui l'enfant. Hein, donc soyons calmes. Et le président de la République a tout à fait raison de dire que si l'enfant se met à faire absolument n'importe quoi, c'est-à-dire 200% de droits de douane sur le cognac, par exemple, hein, il est légitime de commencer à agiter l'instrument de coercition qui a été inventé en 2023 par la Commission européenne.
On surnomme le fameux bazooka.
Qui est le bazooka européen, qui permet de calmer les ennemis, quoi, hein, et en particulier de calmer l'enfant. Voilà. Et donc ça, il faut qu'on ait une très très grande force, hein, dans le poignet et dans l'avant-bras. J'ai envie de dire pour activer cette espèce de joystick là, qui est le bazooka, et pour calmer l'enfant.
Et pour calmer l'enfant, vos propos sont quand même assez inouïs. Vous êtes à la tête de la BPI, vous êtes un homme très sérieux. Vous parlez de Donald Trump comme d'un enfant qui pousse un cri primal et que ça s'arrange pas avec l'âge.
Oui.
Comment on fait? Il est encore là pendant 3 ans. Comment on fait?
Bah d'abord, c'est aux Américains de faire avec ce qu'ils ont. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt. Il faut regarder les choses en face. Alors il est entouré de gens qui sont beaucoup beaucoup plus calmes, etc. Mais qui poussent un agenda qui est grosso modo le même. Donc le nôtre, l'agenda européen, c'est un agenda de réindustrialisation, de souveraineté. Bon. La partie la plus difficile de notre agenda, c'est quand même, j'ai envie de dire, malheureusement, pas l'industrie. Parce que l'industrie, au fond, ça va demander beaucoup de capital, ça va demander beaucoup d'ingénieurs, etc. Mais non, c'est retrouver notre souveraineté digitale, qui est entièrement partie aux États-Unis. Celle-là, c'est beaucoup plus compliqué.
Comment on fait? C'est-à-dire que quand on est, comme vous, à la tête de la BPI, comment on fait pour effectivement investir? D'abord, en avez-vous les moyens? Ça, je vous poserai la question quand même dans un instant, parce que le contexte en France n'est pas tout à fait favorable à l'investissement. Mais comment on fait pour retrouver cette souveraineté? Et est-ce qu'il en est encore temps? Est-ce qu'on peut encore le faire?
Alors, il faut être raisonnable dans l'objectif, hein. C'est-à-dire que il y a des éléments qui ont été perdus depuis grosso modo 2006-2007. Je pense en particulier au cloud. Hein. On aurait pu à l'époque, hein. Et malheureusement, les grands groupes européens qui étaient en position de développer des clouds européens ne l'ont pas fait. Maintenant, c'est fait, hein. Alors, on essaie de repositionner des clouds souverains avec l'aide de la technologie américaine. Mais il y a quantité d'autres verticales du digital, là, qui sont des verticales de software dans lesquelles nous avons des acteurs européens qu'il faut choisir. Donc, il est très clair que les grandes entreprises européennes, mettons, vous avez le CAC 40 en France et vous avez, disons, le CAC 400 en Europe, hein. C'est que ces 400 grandes entreprises européennes doivent utiliser du software européen. Préférence nationale.
Une sorte de patriotisme,
oui,
économique.
Indispensable.
Vous invitez au patriotisme
indispensable.
Économique.
Indispensable. Le choix des technologies digitales américaines, par défaut, c'est trop facile. Ça doit cesser.
Mais concrètement, on a tous nos téléphones qui sont des téléphones américains. On a Microsoft pour la plupart d'entre nous.
Oui.
On a, enfin, objectivement,
oui,
chacun désormais est dépendant.
Oui, dépendant.
On a tous des adresses mail Gmail.
Oui, dépendant jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire que typiquement la suite Office 365. Hein,
donc soyons très concrets. C'est quand même quasiment toutes les entreprises.
Oui, mais elle est parfaitement remplaçable par un software européen. C'est pas très compliqué avec l'intelligence artificielle.
Donc vous invitez les entreprises
françaises
à se passer d'Office 360 et à prendre d'autres systèmes.
Absolument. La révolution technologique, en fait, c'est un ouragan permanent. Et vous avez aujourd'hui les sociétés européennes, en particulier françaises, qui sont capables de vous proposer une suite de qualité identique.
C'est plus cher, c'est moins cher.
Ou même meilleur, beaucoup moins cher, puisque la prédation tarifaire de Microsoft sur Office 365, elle est bien connue, elle est considérable. Donc tout ça va devenir possible. Pour moi, c'est ça le grand front, hein, vis-à-vis des États-Unis. Hein. C'est pas tellement la manufacture, parce que bon, l'Europe...
Mais est-ce que vous dites pas ça un peu comme si, au fond, vous actiez que de toute façon, l'industrie, on n'en fait plus?
Non, on en fait 10% du PIB. Mais le tourisme, c'est 8% du PIB, voyez-vous. Hein, les industries culturelles et créatives, ce qu'on appelle la French Touch, c'est 5% du PIB, voilà les proportions. Donc 10% du PIB français, c'est quand même beaucoup. Ça reste 17-18% en Allemagne, 17% au Danemark. Bon, mais donc ça, il faut absolument que ça continue, il faut plus que ça baisse. Hein. Mais est-ce que ça va remonter à 15? Ce qui est ce que Trump propose à ses Américains? Non, c'est pas possible, ça viendra pas.
Et ça n'est pas vraiment souhaitable?
C'est souhaitable, mais c'est extraordinairement difficile.
Donc soyons réalistes aussi sur la question quand même de l'offensive chinoise.
Oui.
C'est-à-dire qu'on regarde évidemment du côté des États-Unis en ce moment parce qu'il y a ce bruit, en quelque sorte, cette saturation de l'espace du côté de Donald Trump. Mais pendant ce temps-là, il ne faut pas qu'on détourne les yeux de ce qui se passe du côté de la Chine. Une véritable déferlante de produits chinois. Oui. Mes confrères de Marianne, par exemple, ont fait l'enquête sur cette augmentation considérable ces toutes dernières semaines de produits chinois qui arrivent en Europe et en France.
Oui.
Est-ce qu'on a pris la mesure de cette menace-là et laquelle des deux menaces est la plus importante à vos yeux aujourd'hui?
Non, mais j'ai, bon, moi je me suis beaucoup exprimé sur le fait qu'on était en risque de double vassalisation avec deux empires qui nous parlent mal. L'empire chinois qui nous parle très mal sur l'industrie et dès qu'on commence à lever le petit doigt en expliquant qu'on aimerait bien retrouver un peu de souveraineté qui s'énerve et qui s'énerve durement hein, en stoppant les livraisons de métaux critiques en particulier et puis la vassalisation digitale vis-à-vis des Américains. Donc ça c'est la réalité et il faut qu'on lutte contre ça, hein, et de manière déterminée.
Mais comment?
Vous
avez même dit à un moment, vous avez eu cette expression, vous avez dit le tsunami chinois, qui si on ne fait rien, détruira toutes nos entreprises, en gros, de la Pologne jusqu'au bout de la Bretagne, et il faut se refermer, se réarmer, le temps de se réarmer. Est-ce qu'on le fait et comment le faire?
Il faut construire le consensus de au moins deux tiers des pays européens pour remonter les barrières. Voilà. Typiquement, dans l'automobile électrique, on a réussi à obtenir des barrières douanières qui ont été transformées en prix minimum il y a 15 jours, là, maintenant. Je considère que les mesures qui ont été appliquées sont beaucoup trop faibles, en réalité, hein, puisqu'on sait que les voitures chinoises sont fabriquées de manière à ce que les prix soient structurellement de 40% inférieurs aux prix européens. Donc ça va pas le faire. Il faut qu'on remonte beaucoup plus haut. Ces entreprises ont été très largement subventionnées. On ne peut pas l'accepter. C'est la question de...
C'est ce que vous appelez ce dumping. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une distorsion de concurrence dans la mesure où elles sont dopées par l'État chinois.
Ce que les inventeurs du libre-échange des années 2000 n'ont pas vu, n'ont pas anticipé, et donc ça n'était pas dans les actes constitutifs de l'OMC, c'était la politique de subvention massive de la Chine. La Chine fait 1000 milliards d'euros par an d'excédent commercial qui sont quasiment entièrement réinjectés en subvention dans les boîtes. Ça, c'était pas prévu. Et c'est pas bien. Et c'est en quoi, d'ailleurs, quand vous écoutez Lutnik hier
pardon,
à Davos...
Pourquoi c'est pas pareil?
Hein?
C'est-à-dire, pourquoi on s'est fait avoir comme ça? Pourquoi eux le font et nous non?
On n'a pas voulu voir qu'ils le faisaient de manière systématiquement. On a gagné beaucoup, beaucoup d'argent avec la Chine. Il faut regarder ça aussi. Hein. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que les Allemands ont une dette de 50% du PIB et nous, 120. C'est parce que ils ont fait un commerce extérieur monstrueux avec la Chine qui leur apportait des centaines de milliards d'euros d'excédents tous les ans, hein, avec lesquels ils ont pu rembourser leurs dettes. Donc les Allemands n'ont jamais été favorables à une politique dure vis-à-vis de la Chine puisque ils s'enrichissaient de la Chine. C'était pas le cas de la France, hein, et c'était pas le cas de l'Italie, un petit peu quand même, mais pas du tout le cas des autres pays du Sud. Donc on y a trouvé un intérêt. Mais maintenant c'est terminé puisque les Allemands sont déficitaires avec la Chine. Donc cette période légendaire est finie.
C'est fini, le monde est en train de changer et on doit se réarmer, c'est ce que vous nous dites. Nicolas Dufourcq, vous qui êtes à la tête de la BPI, vous dites il faut un patriotisme économique, y compris de la part de nos patrons ici en France, qui doivent privilégier des systèmes français plutôt que des systèmes notamment américains. Mais j'ai envie de vous dire, honnêtement, que fait la France pour eux? C'est-à-dire ce patriotisme économique, c'est bien sympathique, mais dans le même temps, il y a un budget qui est en train d'être adopté au forceps, qui clairement ne met pas les entreprises dans de très bonnes conditions. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de paradoxe, c'est-à-dire on a besoin des entreprises, on a besoin des patrons français, et en même temps, franchement, les traiter si mal?
Bah, écoutez, vous avez complètement raison. Hein. Le budget qui va passer, là, maintenant, n'est que le énième épisode d'une série qui a commencé il y a maintenant 50 ans, qui est une série dans laquelle l'État-providence galope devant l'économie, à toute berzingue, espèce de chevauchée fantastique, et l'économie a beau se battre les flancs pour produire, faire des belles entreprises, des beaux entrepreneurs, etc., les dépenses sociales courent toujours devant. Hein. Et donc, en fait, toute notre machine institutionnelle, républicaine, démocratique est construite pour la fuite en avant de l'État-providence. Et ça continue. Et ça continue. Hein, en dépit du fait que les chiffres sont catastrophiques. Et en plus, bizarrement, ça ne rapporte rien électoralement à ceux qui votent ces dispositions-là. Hein, parce que les Français oublient tout de suite ce qu'on leur a donné et oublient surtout qui les leur a donné. Et donc, c'est parti pour continuer cette affaire.
Vous espériez qu'ils auraient plus de courage, c'est-à-dire sur la question de l'équilibre global. D'ailleurs, c'est pas une question de droite-gauche.
Oui.
C'est une question simplement aussi à un moment de savoir si ça passe.
Oui.
Et là, mais, ça ne passe pas.
Bah, c'est-à-dire que ce budget, on parle de 5% du PIB. Mais 5%, c'est combien de déficit par rapport au total des dépenses? Hein, c'est beaucoup plus que 10%. Donc, ça veut dire que 10% de toutes nos dépenses, donc ça veut dire que 10% de nos dépenses sociales sont financées et vont continuer d'être financées par de la dette. Ça veut dire que ce qu'on a décidé, c'est-à-dire la prime d'activité, 50 euros de plus, c'est-à-dire 2 milliards d'euros par an, bah, c'est de la dette. Ça veut dire que le repas à 1 euro pour les étudiants, c'est de la dette. Et c'est à nouveau nos petits-enfants qui vont payer. Et on n'a pas voté la dette, là. On a voté un budget avec 5%. Et ensuite, on fait les calculs, on dit, mais attendez, ça va coûter combien en dette? Ben, ça va coûter 150 milliards de dettes de plus en 2026. Et puis, ça va continuer. Donc, je pense que le système, il est maintenant absolument clair, établi, que notre système constitutionnel, démocratique, républicain, n'est pas capable d'inventer par lui-même la règle de discipline budgétaire qui va faire atterrir la croissance des dépenses sociales françaises.
C'est très grave ce que vous dites, parce que, au fond, vous ne faites plus confiance aux politiques. Parce que le système est comme ça désormais, avoir ce sens des responsabilités en quelque sorte.
En fait, je dirais pas ça, c'est pas mes mots, parce que j'ai beaucoup de respect pour eux. Chacun évolue dans un champ de contraintes. Leur champ de contraintes enfin, c'est un Larsen permanent, hein. Et c'est vrai que la demande sociale est considérable, et le conflit politique, il est ce qu'il est, etc. Mais ce que je remarque, en fait, hein, c'est que les pays européens qui ont réussi à discipliner la croissance de leurs dépenses sociales ont juste décidé de s'imposer une règle d'or, qui est que le déficit budgétaire
contraignante,
quasi constitutionnelle ou même constitutionnelle, c'est le Portugal dans lequel vous ne pouvez pas avoir de déficit budgétaire supérieur à 0,5% du PIB, c'est l'Allemagne où vous ne pouvez pas avoir de déficit budgétaire supérieur à 0,35% du PIB. En Italie, ils ont tellement souffert de leur dérapage budgétaire qu'ils sont devenus hyper disciplinés. Danemark, Suède, Hollande, ils sont hyper disciplinés, ils ont une dette de 30%, nous 120% du PIB, hein. Donc il faut regarder ce qu'ils ont
Portugal avec effectivement un pays qui aujourd'hui a renoué avec la croissance, l'espoir, et qui est même vu par certains comme un modèle. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que, en effet, vous parliez de ces fameux 5%, officiellement ils seront tenus, mais en effet ça ne va pas réduire la dette, donc ça va continuer à nous coûter, les intérêts vont continuer à grossir. Est-ce que on aura les moyens d'investir malgré tout dans l'avenir?
Ben, la preuve que non, c'est que ce qui est prévu dans cette copie budgétaire, c'est de réduire significativement le budget de France 2030.
France 2030, qui est donc effectivement normalement ce qui doit accompagner les entreprises. Vous alertez là-dessus?
Ben, oui.
On est en train de sacrifier notre futur.
Je constate, si vous voulez, c'est l'équation naturelle à laquelle on est confronté aujourd'hui.
Les entreprises. Non, je vous sens. Vous avez toujours ce petit côté avec un recul. Mais là, ce matin, je vous sens quand même plus découragé que d'habitude.
Découragé, non, parce que encore une fois, les entrepreneurs ont des ressources d'énergie intérieure, de volonté, de culot extraordinaires. Donc, ils ont fait la preuve encore une fois en 2025 qu'ils étaient capables de sortir une économie à 1% de croissance.
Mais vous pensez que ça va tenir?
Oui,
ça,
je pense qu'on va. Vous voyez, en 2026, la BPI, on a un budget en croissance. Hein, mais c'est plutôt à très long terme que j'alerte sur le fait que si on prend pas conscience du fait que notre machine est devenue folle, en fait, hein, sur la chevauchée de nos dépenses de retraite, de santé, de minima sociaux et de politique de l'emploi, en fait, tout ce qui fait nos prestations sociales, hein, dont bénéficient, vous avez 42% des Français adultes dont la majorité des revenus sont des revenus de transfert, de distribution, de redistribution, de solidarité, 42%. Si vous ajoutez les fonctionnaires, ça fait 52% des Français adultes dont les revenus sont des revenus de redistribution, 52%. Hein. Et donc, on doit partir de là pour comprendre comment construire la France du futur.
Nicolas Dufour, qu'on apprend à l'instant, la Société Générale annonce qu'elle va présenter un projet de réorganisation qui prévoit la suppression de 1800 postes en France. Est-ce qu'il faut prendre cette alerte au sérieux sur l'emploi et sur le secteur bancaire?
Je ne suis pas sûr, honnêtement.
Ce n'est pas une surprise à vos yeux?
Non, c'est pas une surprise. C'est-à-dire que toutes ces banques avaient quand même énormément recruté à une époque, était une époque où il fallait construire des réseaux ultra capillaires dans le pays avant la digitalisation. Maintenant, la digitalisation a pris une telle ampleur que je peux comprendre qu'il y ait moins besoin de personnes physiques, honnêtement.
Il y a un autre chiffre qui inquiète, mais dont vous allez peut-être nous dire qu'il faut le relativiser, c'est le nombre de faillites d'entreprises.
Oui.
Est-ce que c'est aussi un signal? Il a considérablement augmenté cette année. Oui. Des faillites d'entreprises, y compris volontaires, c'est-à-dire ce ne sont pas des entreprises qui font faillite, mais ce sont des patrons qui lâchent l'affaire, en quelque sorte. Oui. Est-ce que ce signal-là vous inquiète ou est-ce qu'au contraire, vous dites, comme pour la Société Générale, qu'il faut relativiser?
Bon, on était à 60 000 faillites dans les années 2013, 14, 15, 16, 17, 18 avant les Gilets jaunes. Et on est aujourd'hui à 68 000 en étant passé entre temps à 40 000. Donc, pour l'instant, je suis pas encore inquiet. Ce qui compte, c'est de regarder le coût du risque des banques. C'est-à-dire, est-ce que les entreprises font défaut? Et honnêtement, il reste extrêmement faible. Donc, l'économie française est plutôt saine. Mais c'est vrai que, il y a des tout petits entrepreneurs, du petit commerce, des auto-entrepreneurs. C'est vraiment les microstructures qui font faillite, hein. Il y a évidemment, par ailleurs, qui font la une de la presse, un certain nombre de PME industrielles qui tombent, hein. Mais bon, ça, c'est à nouveau le renouvellement, je dirais, plastique, constant de l'industrie française. Donc, pour l'instant, clairement, ma réponse à votre question, c'est, je suis pas très inquiet.
Vous êtes pas très inquiet, vous êtes juste vigilant aussi sur les décisions qu'on prend et vous alertez aussi sur cette question aussi des tarifs douaniers et de la plasticité de l'Europe, de sa capacité à réagir. Oui. Merci Nicolas Dufourcq, directeur général de la BPI France, donc la Banque publique d'investissement, et votre dernier livre, La dette sociale de la France, c'est chez Odile Jacob. Il est 8h47, si vous êtes bien sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Nicolas Dufourcq, lui, directeur général de BPI France, était mon invité ce matin dans le face-à-face. On est évidemment revenu sur le discours de Donald Trump à Davos et puis sur celui d'Emmanuel Macron.
Hey! Bonjour à tous et à toutes. Ça va? Je vous impressionne.
C'est très impressionnant.
Oui, ben écoutez, j'y vois mal, alors je me relève. Non, ça vous impressionne pas trop avec mes lunettes de badass comme ça et mon charisme de biker tatoué?
C'est vrai que c'est très impressionnant.
Attends, attention, je crois qu'il y a Élise Dangean qui est en train de s'évanouir.
Ah, ouais. Amoureuse.
Mme de Malherbe, chère Apolline, vous voulez toucher mes pectoraux?
Ça va aller, ça va aller.
Attention, parce que l'acier, c'est froid.
Ah, oui. Monsieur le Président, vous étiez donc du côté de Davos pour le Forum économique mondial. Le contexte est très tendu. Comment ça se passe avec Donald Trump?
Mais écoutez, il passe son temps à me chambrer, me demander de le rejoindre dans son conseil de la paix. Mais vous iriez-vous dans un conseil de la paix quand la paix est assurée par Trump, par Poutine, Orban et Ravir Mélé, hein? Franchement, mais non, c'est un peu comme aller dans une jardinerie Michel Fourniret ou dans une crèche Véronique Courgeot. Je dis non, merci.
C'est un nom définitif?
Pardon?
Définitif, vous allez vraiment dire...
Oui, parce que Donald, en plus, réclame $1 milliard pour rentrer dans son conseil à la noix. Non, vous avez vu en plus l'état de burn-out dans lequel est mon le cornu. Non, si je lui demande $1 milliard de plus dans le budget, non, là, il va s'immoler les sourcils et il va se pendre avec les manches de son pull mou.
Merci, monsieur le président. Ce matin, Stéphane Bern est avec nous pour les titres de l'actualité.
Oh oui! Oh bonjour, mon Apolline! Bonjour, ma reine! Oh, reine des neiges! Dites donc, avec ces émotions internationales, ces menaces d'annexion de territoire, ces rhétoriques guerrières entre grandes puissances, vous savez quoi? Je suis tout émoustillé à l'idée qu'on pourra avoir un nouveau conflit mondial. Parce que oui, c'est vrai que pour tout vous dire, je commence à avoir fait le tour de tous les grands thèmes dans Secret d'Histoire. Donc il est grand temps que je puisse avoir de nouveaux sujets à traiter. Donc vive la guerre!
Allez, c'est parti pour les titres.
Économie. Après nous avoir menacé, Donald Trump retire ses droits de douane de 200% sur nos vins et autres champagnes. Mais moi je dis, restons vigilants. Préparons-nous quand même à mettre en place un embargo sur les exportations vers les États-Unis d'auto-bronzant orange, de fond de teint, je ne sais pas, de terre battue de Roland Garros, enfin, tout ce qui est orange et qui peut vraiment déstabiliser Donald. Et puis stylisme, oh c'est triste. On a appris la disparition, vous savez, de Valentino. Valentino qui serait mort d'une crise cardiaque après avoir vu Sébastien Lecornu porter un pull ras du cou sous une veste de costume. Ainsi qu'un cabas avec des poireaux. Non, mais oui, vous le savez, vous qui êtes toujours si élégante, Apolline. Il y a des fautes de goût qui ne pardonnent pas,
long. Bien sûr, c'est vital.
Et puis Davos, Donald Trump continue de faire le show en se moquant entre autres d'Emmanuel Macron et en révélant certains de ses SMS. François Hollande tenait à réagir.
Oui. Et une fois n'est pas coutume, je voulais, cher Monsieur Maire, apporter mon soutien à Emmanuel Macron. Parce que je sais ce que c'est que de voir des messages privés, des SMS révélés au grand jour. Et sans parler des livres qui disent qu'un président ne devrait pas dire ça, où on dévoile vos traits d'humour sur les 100 dents. Alors que c'était pour rire, vous l'aviez compris. Donald Trump semble encore plus imprévisible et hargneux qu'une femme trompée. Et en la matière, je m'y connais.
Merci à tous. Allez, alors qu'il vient de fêter les 1 an de son second mandat à la tête des États-Unis, Donald Trump est avec nous sur RMC ce matin. Bonjour, Monsieur le Président.
Yeah. Bonjour, Pauline.
Hello.
Bonjour, Pauline. C'est mon anniversaire. T'as pas mis la perruque blonde et tu me chantes pas Happy birthday to you, Monsieur President. Happy birthday to you.
Ça va aller, merci beaucoup. On vous a entendu donc hier à Davos, Monsieur Trump. Vous ne cachez pas que vous êtes très très fier de votre bilan. Vous allez d'ailleurs faire une conférence de presse. Vous avez montré des photos de délinquants arrêtés par votre police de l'immigration.
Oui, t'as vu ma conférence de presse?
Oui, j'ai vu, j'ai vu.
J'ai pris mon temps pour montrer au monde entier les photos de tous les gens que j'ai arrêtés. Et j'ai encore d'autres photos des gens que j'ai arrêtés. Mmh. Alors, je les ai amenés. Je prends mon temps avec. Alors, avec elle, j'ai arrêté aussi. C'est Stormy Daniels.
Ah oui, 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 on la reconnaît.
Alors, elle, c'est Svetlana. J'ai arrêté aussi. C'est Poutine qui me l'avait offerte.
Ah, d'accord. On a arrêté. D'accord.
Alors, elle, c'est moi qui ai arrêté. Elle voulait, mais c'est moi que j'ai arrêté.
Ah oui, elle
vous a arrêté. Parce qu'elle est mamie et je respecte les mamies.
Ah oui, vous respectez les mamies.
Et lui, je sais pas qu'est-ce que c'est. Emmanuel. Ah. C'est un chic type, Emmanuel. Mm. Mais je préfère quand même le film.
Ah, le film, Emmanuel, je préférais plutôt que le Macron. Merci, Monsieur Trump. Pour nous aider à y voir plus clair sur la situation internationale, il fallait vraiment faire appel aux meilleurs experts. Vincent Moscato est avec nous.
C'est le super Moscato Show.
Oh, putain. C'est bon, à moi. Ça démarre. Alors oui, je voulais parler de Trump, le gros, il te les rend fous. Les rédacteurs des chaînes info, elles sont toutes en ébullition. Le Groenland, Puis t'es obligé d'envoyer en urgence des envoyés spéciaux là-bas. T'imagines les journalistes en rédaction de BFM, tu vois, les mecs, bon, les gars, qui c'est qui va au Groenland? Les mecs, ils regardent tous leur propre. Putain, tu dis, putain, plus au mois de janvier, le Groenland, tu vois, ça rigole pas. Mais il y en a un qui se régale. C'est Maxime Soutek. Ouais. Maxime Soutek, putain, il se régale. Lui, plus ça pète dans le monde, plus il est content. Je te dis que lui, au début, BFM, tu vois, lui, il arrive et tes journaux, ils sont normaux. Tu vois, il faisait des émissions sur la rentrée scolaire, sur la déjà d'hiver, sur la saison des fraises, tu vois. Le mec, tu vois, transparent, tu vois. Et puis après, il prend du galon. Le mec, oh putain, le galon qui te prend l'émission, qui porte son nom, 22h max, tu vois, avec du bleu, du orange flashy, tu vois, le boulard qui commence à gonfler. Ensuite, il fait une émission qui s'appelle Forum. Oh, putain, il te prend le sujet qui pique le plus, il te fait monter la sauce, il te vend ça tous les soirs, une émission exceptionnelle, avec les invités exceptionnels, les enjeux exceptionnels, putain, les agriculteurs, ils te vendent tous les agriculteurs, la dermatose, bien compte sur Vésula, le budget, tous les soirs, ils te vendent un nouveau truc exceptionnel. Le mec, c'est télé-shopping que le mec, le télé-shopping. Et là, hier, la bascule, Sweet Tech, il pète une durite, putain, sa nouvelle émission, c'est Quartier Général, putain, avec, tu vois, avec le générique qui rompe, tu vois, Quartier Général, riposte ou soumission, 2 heures pour trouver la solution. Le gueuse, il est passé de la brandie réformée pour pied plat, chef d'état-major. Puis tu vois le décor, tu croyais que t'étais dans un bunker, tu vois les lumières sombres, les filets, les trucs à l'ambiance glauque, tu vois le sweet-tech, il a toujours un nouveau décor, quoi. C'est plus un journaliste, c'est Valérie Damido, le mec. À côté, le plateau de Marc Fauvel, c'est Germinal, tu vois, putain. Chez sweet-tech, tous les soirs, c'est tellement exceptionnel, tu vois, un jeu exceptionnel, un invité exceptionnel, putain, tu vois, à un moment donné, tu fatigues, tu vois. Parce que le foie gras, c'est moi, le son du journalisme, c'est quoi? C'est que le foie gras, c'est bien, mais quand on t'en sert tous les jours, t'es content d'avoir des carottes râpées.
Merci, Vincent Moscato. Et merci, Nicolas. Passe à... Cantelou que l'on retrouve donc dès demain à 8h50, mais à tout moment également sur la RMC. Dans un instant, les GG. Alain est dans ce studio. Salut Alain, quel est le programme?
Bonjour Apolline, bonjour à tous. 9h midi, les grandes gueules. Vous avez vu la classe optimum de la SNCF, un voyage de haute qualité et dans les voitures, pas d'enfants. Alors, est-ce que c'est vraiment tranquillisant, apaisant ou est-ce que c'est navrant? C'est au 32-16 que vous en parlez avec nous.